Vous écoutez, on lit pour vous.
L'actualité verte de la semaine. Un texte de Jean-Thomas Léveillé et l'agence France-Presse paru le 4 mai 2026 dans la presse. La mortalité des bélugas en hausse. 19 carcasses de bélugas ont été trouvées à la dérive ou sur les rives du Saint-Laurent en 2025, révèle le bilan du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, GREMM. Un organisme à but non lucratif. Il s'agit d'un retour à la moyenne des 42 dernières années, après la faible mortalité historique de 2024. Aucune dystocie, c'est-à-dire une complication lors de la mise bas, n'a causé la mort des femelles trouvées, alors qu'elles étaient fréquentes depuis quelques années, ont démontré les nécropsies réalisées sur 11 carcasses. Cela pourrait indiquer une diminution de ce problème ou une diminution des naissances. La France publie son plan pour se sevrer du pétrole. La France s'est démarquée mercredi à la première conférence sur l'abandon des énergies fossiles en Colombie en publiant sa feuille de route pour éliminer progressivement le charbon, puis le pétrole et enfin le gaz, et devenir carboneutre en 2050. Selon les observateurs, aucun autre pays n'a publié de plan aussi clair et complet. Par ailleurs, l'un des principaux aboutissements du sommet est la création d'un groupe de scientifiques chargés de conseiller les gouvernements de tous niveaux dans la planification de leur transition énergétique. Le prochain sommet aura lieu en 2027 à Tuvalu, petit état insulaire du Pacifique menacé par la montée des eaux. Diminuer l'empreinte carbone du béton. L'Université de Sherbrooke crée un pôle d'excellence sur les bétons bas carbone, pour accroître l'utilisation de béton à faible émission de gaz à effet de serre. L'établissement estrien développe des bétons plus verts depuis 3 décennies, mais veut par cette initiative convaincre l'industrie d'adopter ces nouveaux matériaux en faisant travailler ses chercheurs avec les entreprises du secteur et les propriétaires d'infrastructures. L'équipe travaillera par exemple avec le secteur minier pour donner une seconde vie à certains sous-produits en remplaçant une partie du ciment dans les nouveaux bétons développés dans une approche d'économie circulaire. C'était l'actualité verte de la semaine, un texte de Jean-Thomas Léveillé et l'agence France-Presse, paru le 4 mai 2026 dans la presse.
Le vrai défi du DSN, un texte de François-William Croteau, paru le 13 mai 2026 dans Le Devoir. Le dossier Santé numérique DSN a commencé son déploiement. Contrairement au lancement de Saclic, celui-ci se fera graduellement afin d'éviter qu'une faille informatique ne vienne immobiliser tout le réseau de la santé. Disons-le d'emblée, le DSN est nécessaire. Un réseau moderne digne de ce nom ne peut pas fonctionner avec des dossiers papier, des fax, des systèmes qui ne se parlent pas et des professionnels obligés de répéter les mêmes informations d'un établissement à l'autre. La nécessité d'un virage numérique ne garantit pas pour autant sa réussite. Le débat public entourant le DSN, notamment sur l'hébergement de certaines données chez Amazon Web Services, AWS, révèle un questionnement plus profond. Sommes-nous vulnérables seulement parce que des données pourraient être hébergées chez une entreprise états-unienne ou, plus largement, parce que notre gouvernance publique des données demeure trop faible? Quand on parle de gouvernance des données, on parle des règles, des processus et des responsabilités qui nous permettent de savoir une foule de choses. Comment les données sont produites, à quelle fin, où elles sont hébergées, qui peut y accéder, combien de temps elles sont conservées ou comment elles peuvent être utilisées par des systèmes numériques, des tableaux de bord ou même, éventuellement, des outils d'intelligence artificielle. Bref, la gouvernance n'est pas un détail technique. C'est l'équivalent, pour les données, de la place qu'occupe la gestion administrative dans une organisation. Sans elle, on doit se résoudre à utiliser des systèmes sans toujours comprendre ce qu'ils produisent, ce qu'ils changent et même ce qu'ils rendent possible. Avant même de parler d'outils avancés, il faut revenir aux fondations. Une donnée devient utile si elle est produite selon des règles claires, bien documentées et rattachées à un objectif précis. C'est souvent là que le bât blesse dans plusieurs organisations publiques. Nous produisons beaucoup de données, mais nous le faisons souvent sans prendre la peine de nous doter de règles communes, de normes partagées et de mécanismes solides pour en assurer la qualité et le suivi. Le Cyrano l'a récemment rappelé dans un rapport sur les données publiques au Canada. Si les données des différents ordres de gouvernement ne peuvent pas se parler, se croiser et être utilisées dans des cadres communs, l'État perd une partie de sa capacité d'action. La gouvernance des données sert précisément à éviter ce désordre invisible. Sans elle, le numérique devient une couche technologique ajoutée à des processus mal maîtrisés. On ne modernise pas l'État en branchant de nouveaux systèmes sur de vieilles ambiguïtés. On ne fait qu'accélérer ces problèmes. La première vulnérabilité n'est donc pas exclusivement liée à l'hébergement de nos données. Elle se trouve aussi, tout au début de la chaîne, dans la manière dont l'État produit, classe et gouverne ses propres données. Si cette culture de la donnée n'est pas présente dès la conception des services publics, le numérique devient une couche supplémentaire posée sur des processus fragiles. On informatise alors des faiblesses au lieu de les corriger. C'est exactement ce qui devrait nous préoccuper avec le DSN. Les données de santé sont parmi les plus délicates qu'un État puisse détenir. Elles racontent nos diagnostics, nos traitements, nos vulnérabilités et parfois jusqu'à des pans entiers de notre vie intime. Elles ont une valeur immense pour la planification du réseau, la continuité des soins, la recherche, la prévention et l'amélioration des services. Elles exigent donc une gouvernance exemplaire. Qui décide des accès? Qui vérifie les consultations? Qui peut corriger une erreur? Qui s'assure que les données ne seront réutilisées au-delà des objectifs prévus? Qui possède, à l'interne, les compétences nécessaires pour comprendre réellement ce que le système fait? Ces questions ne sont pas accessoires. Elles sont au cœur même de la confiance qu'on en a. Le recours au privé n'est pas illégitime. Le secteur public ne peut pas tout développer seul et certains fournisseurs possèdent une expertise réelle. Mais lorsque l'État dépend de plateformes et de fournisseurs qu'il ne maîtrise pas pleinement, le contrat devient plus qu'un contrat. Il devient une relation de dépendance. C'est là que le fait d'avoir retenu AWS pour le DSN prend toute son importance. En raison de lois états-uniennes comme le Cloud Act et le Patriot Act, l'hébergement chez une entreprise états-unienne soulève des enjeux réels, même lorsque les serveurs sont situés ici. La souveraineté numérique n'est pas seulement une question d'hébergement, bien sûr, mais c'est aussi toujours une question d'hébergement. Le risque n'est donc pas uniquement lié au fait que nos données soient stockées ailleurs ou soumises à une législation étrangère. Le risque est que l'État perde progressivement la capacité de comprendre, d'organiser, de protéger et d'utiliser ses propres données sans dépendre d'acteurs externes. Une institution publique qui ne maîtrise pas ses données ne maîtrise pas pleinement ses décisions. Le DSN peut devenir une avancée majeure pour les patients, les professionnels et l'ensemble du réseau de la santé. Mais il ne le deviendra pas simplement parce qu'une plateforme aura été déployée. Il le deviendra si l'État québécois démontre qu'il sait gouverner ses propres données, sécuriser ses infrastructures, former ses équipes, auditer ses systèmes et imposer ses propres règles à ses fournisseurs. Le vrai défi du DSN n'est donc pas seulement de faire passer la santé à l'ère du numérique. C'est aussi pour l'État de faire la preuve qu'il peut reprendre la pleine possession de son intelligence organisationnelle, Sans cela, nous n'aurons pas modernisé notre réseau de la santé, nous l'aurons simplement branché à une dépendance de plus. C'était « Le vrai défi du DSN », un texte de François-William Croteau paru le 13 mai 2026 dans Le Devoir.
Des preuves qu'il est possible d'agir. Un texte de Philippe Mercure, paru le 21 avril 2026 dans la presse. Nos cibles de réduction de GES sont régulièrement ratées ou repoussées. Le caribou forestier continue de décliner. Rien ne semble vouloir rapprocher la fonderie Horn des normes de pollution. Facile ces jours-ci de croire que l'être humain est impuissant à agir pour l'environnement. Des avancées majeures, pourtant, il y en a déjà eu. Je vous propose d'en revisiter quelques-unes, histoire de se rappeler qu'il est possible de changer les choses. La couche d'ozone. Ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années 1980 se souviennent de ce stress ressenti en mettant le nez dehors. La couche d'ozone, censée nous protéger des rayons UV du soleil, s'amincissait au-dessus de nos têtes comme les bulles de gomme houba-bouba à mesure qu'on soufflait dedans. Les responsables? Des gaz comme le chlorofluorocarbone, CFC, utilisé notamment dans les réfrigérateurs et les mousses isolantes. J'ai toujours été fier de savoir que, c'est à Montréal, en 1987, qu'un protocole a été signé pour interdire ces substances nocives. Pas moins de 197 États l'ont ratifié et surtout mis en vigueur. Résultat, 99% des gaz endommageant la couche d'ozone ont été éliminés, si bien que la couche d'ozone se régénère et devrait retrouver ses niveaux d'antan vers le milieu du présent siècle. Les pluies acides. Comme l'amincissement de la couche d'ozone ou le duo musical Milli Vanilli, les pluies acides sont un autre phénomène des années 1980 dont nous sommes soulagés de ne plus entendre parler. Cette fois, ce sont le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote rejetés par les centrales thermiques, les fonderies et d'autres types d'usines qui étaient en cause. Les pluies acides affectaient les forêts et tuait la vie aquatique des cours d'eau. Le Canada, les États-Unis et l'Europe ont réagi en limitant les émissions des polluants en question et en signant des protocoles d'entente sur la pollution transfrontalière. Les pluies acides n'ont pas complètement disparu, mais le phénomène est bien moins inquiétant qu'il ne l'était. Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency estime que les émissions de dioxyde de soufre ont diminué de 95 % et celles d'oxyde d'azote de 89 %. Le retour des oiseaux de proie. Le pygargue à tête blanche est un oiseau spectaculaire, pas étonnant qu'il ait été choisi comme l'emblème des États-Unis. Or, cette icône a bien failli disparaître. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais à la fin des années 1960, il ne restait pratiquement aucun pygargue à tête blanche en Amérique du Nord à cause de l'utilisation d'un pesticide appelé DDT. Aujourd'hui, je peux me rendre sur le bord d'une rivière près de Vancouver et en voir des centaines en une seule journée, dit David R. Boyd, professeur à l'Institut des ressources de l'environnement et de la durabilité à l'Université de la Colombie-Britannique. Ce qui est arrivé? Le bannissement du DDT, tout simplement, imposé au début des années 1970 par un grand nombre de pays. L'interdiction de ce pesticide qui amincit la coquille des œufs d'oiseaux a profité non seulement aux pygargues à tête blanche, mais également à de nombreux oiseaux de proie dont les populations ont bondi de 35 % au Canada depuis 1970. En pleine crise de biodiversité, il s'agit d'une victoire extraordinaire. La fin du plomb dans l'essence. Dans les années 1920, l'industrie automobile a accouché d'une idée qui semblait géniale. Ajouter du plomb dans l'essence pour augmenter l'efficacité des moteurs et les lubrifier. L'une des plus grandes erreurs du 20e siècle, dit aujourd'hui le professeur David R. Boyd, c'est que le plomb est toxique pour l'humain, provoquant notamment des dommages neurologiques chez les enfants. Son ajout à l'essence contribuait à son rejet dans l'air, dans l'eau et dans le sol, causant aussi des effets nocifs sur la faune et la flore. En 2021, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a annoncé que tous les pays du monde avaient cessé de vendre de l'essence au plomb. L'Algérie a été le dernier pays à le faire, quelques années après l'Irak, le Yémen, la Corée du Nord, la Birmanie et l'Afghanistan. Un succès à l'échelle de la planète, sans aucune exception. Comment reproduire de telles victoires? Chacun de ces cas a été rendu possible grâce à une législation et une réglementation strictes. Et ça, c'est le rôle des gouvernements. Adopter des lois, puis s'assurer de les mettre en œuvre, répond le professeur David R. Boyd. L'auteur de l'ouvrage « Environnement, les années optimistes » souligne qu'à l'époque, les lobbies industriels étaient pourtant tout aussi mobilisés qu'aujourd'hui. Les succès ont lieu lorsque les gouvernements ont le courage de tenir tête à l'industrie en protégeant l'intérêt public plutôt que les intérêts privés, dit-il. Malheureusement, on voit trop de gouvernements actuels faire passer les intérêts privés avant l'intérêt public. Et cela constitue une trahison de leur devoir envers les citoyens qu'ils sont censés servir. L'exemple du pigargue à tête blanche, pour lequel les Américains avaient un attachement particulier, contient une autre leçon. Nous défendons ce qui nous est cher. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant? Je parie que vous trouviez que la nature était extraordinaire, qu'il s'agisse d'un pigargue à tête blanche, des grenouilles dans l'étang ou d'aller pêcher avec votre père, dit David R. Boyd. Il souligne que les adultes devraient se reconnecter à la nature, ce qui aiderait à en défendre la cause. En ce sens, il croit que la création de parcs et de réserves est un pas dans la bonne direction. J'ai aussi échangé avec le professeur Stéphane Castonguet, spécialiste de l'histoire de l'environnement à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est plus critique envers ce que je décris comme des victoires environnementales. À son avis, les victoires d'ici et d'aujourd'hui peuvent être perçues comme des échecs ailleurs ou à une autre époque. Il souligne par exemple que le moteur à combustion a d'abord été vu comme une victoire environnementale, libérant les villes du cotin de cheval. De la même façon, des organochlorés ont été bannis comme le DDT et les CFC, mais des produits chimiques et biotechnologiques parfois aussi puissants, mais aux effets imparfaitement connus, ont été mis au point, fait-il remarquer. Les pluies acides dans l'est de l'Amérique et en Europe ont été contrôlées, mais une partie de la sidérurgie a déménagé dans des régions où les contrôles environnementaux sont moins efficaces, s'ils existent. Il faut effectivement prendre garde aux angles morts des mesures que l'on adopte. Mais je persiste à penser que les victoires environnementales du passé sont réelles. La couche d'ozone se rétablit bel et bien, tout comme la population de pigargues à tête blanche. Il me semble que ces victoires devraient nous inspirer. D'autant plus qu'il ne manque souvent qu'un ingrédient pour les reproduire. Le courage. C'était « Des preuves qu'il est possible d'agir », un texte de Philippe Mercure paru le 21 avril 2026 dans La Presse.
Sans foi ni loi. Un texte d'Alexandre Soublière, paru le 1er mai 2026 dans La Presse. Le président américain semble repousser toutes les limites. Et si, au fond, Donald Trump était un nihiliste? Se demande notre collaborateur. Chaque année, le dîner des correspondants de la Maison-Blanche vise à célébrer la liberté d'expression en invitant journalistes et politiciens à se taquiner mutuellement. Il s'agit d'une manière amicale de se rappeler l'importance du rôle de chacun en démocratie. Mais le week-end de fin avril 2026, le gala a été interrompu par des coups de feu, suivis de policiers en équipement tactique déployés pour évacuer les participants. Les images sont frappantes. Peut-on y voir une métaphore de l'état actuel de la société américaine? L'une des vertus de la liberté d'expression est de pouvoir débattre afin d'éviter d'en arriver à la violence. Dans l'arène des idées, de la parole, de l'art et des écrits, on peut pratiquement faire ce que l'on veut, comme dans une sorte d'anarchie. Il reste qu'il y a tout de même des balises. Ces règles varient, mais en général, par exemple, on ne peut pas menacer les autres, les diffamer, et ainsi de suite. Une anarchie contrôlée, disons. En plus des limites légales, il y a aussi des limites morales. Celles-ci sont beaucoup plus floues et elles fluctuent en fonction des époques et des cultures. Au fil du temps, ceux qui ont bousculé les limites de la liberté d'expression l'ont fait tantôt à la recherche de vérité, tantôt pour combattre des injustices ou simplement pour se faire de la publicité. Comme Elvis Presley, dont l'exagération des déhanchements lors de ses prestations était jugée obscène. Parlez-en en bien, parlez-en en mal. Des iconoclastes, il y en a eu un paquet tout au long de l'histoire. Et les vrais de vrais ont souvent payé cher leur anticonformisme. Socrate, accusé de corrompre la jeunesse, a été mis à mort. Galilée a été condamné pour avoir défendu l'idée que la Terre tourne autour du Soleil. Salman Rushdie a été visé par une fatwa et victime d'une tentative de meurtre en réponse au supposé blasphème de son livre « Les versets sataniques ». Ces cas ont tous en commun la remise en question des dogmes, de l'ordre établi et de l'autorité. Retour à aujourd'hui. En plus de l'art des deals, Donald Trump est passé maître dans l'art de repousser les limites. Mais les limites de quoi, au juste? Lorsque le président des États-Unis s'attaque au pape ou publie des images de lui dans la peau de Jésus, quelle autorité essaie-t-il de provoquer, étant lui-même l'homme le plus puissant au monde? Dans la foulée de cette publication controversée, Tucker Carlson a renié son ami Trump en allant même jusqu'à suggérer que le président pourrait s'avérer être nul autre que l'Antéchrist. L'Antéchrist. En tant qu'amateur de musique punk, ce mot m'a aussitôt rappelé un des albums de ma jeunesse. Les Sex Pistols ont chanté « I am an Antichrist. I am an anarchist. » Serait-ce maintenant autour du commandant en chef du gouvernement américain de le faire? On assiste à un moment de l'histoire où le serpent mange sa propre queue. La contre-culture d'hier est devenue la culture d'aujourd'hui. Le paradoxe de l'artiste qui veut brasser les choses, c'est qu'il cherche à se libérer des règles pour créer, tout en ayant besoin de ces mêmes règles pour les transgresser. On ne peut être choqué par John Lennon, se disant plus populaire que Jésus, que si l'on a la foi. Car si l'on n'est pas croyant, cette provocation est banale et ne signifie rien. L'ascension au pouvoir de Donald Trump, surtout dans sa forme la plus distillée, telle qu'on a pu l'observer dans la dernière année, est l'aboutissement logique du nihilisme qui a pris racine dans les sociétés occidentales à force de vénérer l'argent et la loi du plus fort. Sans Dieu ni maître, sans valeur ni morale, sans vérité partagée ni communauté. Et lorsqu'on perd ses repères, on ouvre la porte au chaos. Vous vous souvenez de cette réplique d'Alfred dans le Batman de 2008, décrivant le Joker? Certaines personnes veulent simplement voir le monde brûler. Cette phrase nous a rattrapés. Le chaos, ça ressemble à quoi? Des guerres et des prix en hausse à la pompe. Et ça ressemble à des policiers en smoking brandissant des armes lors d'un gala censé célébrer la liberté de la presse et la démocratie. Malheureusement, même le chaos, on finit par s'y habituer. Parce que, dans une société nihiliste, plus rien ne choque. Quand le yin et le yang de la transgression et des mœurs perdent leur équilibre, plus rien n'a de sens. Trop d'animalité défigure l'homme civilisé. Trop de civilisation crée des animaux malades, écrivait Carl Gustav Jung. Au début du mouvement MAGA, on présentait Trump aux jeunes comme le nouveau rebelle, le nouveau punk. J'ai mentionné les Sex Pistols plus haut, l'un des groupes phares du mouvement punk. Quelle est leur phrase la plus célèbre? Deux mots seulement. No future. C'était Sans foi ni loi. Un texte d'Alexandre Soublière, paru le 1er mai 2026 dans La Presse.